de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une demi-heure pour parler de cinéma, des films qui sont sur les écrans, et puis on a aussi aujourd'hui le plaisir d'écouter un réalisateur et son comédien. Le réalisateur c'est Fabien Gorjard et le comédien c'est Lies Salem, et c'est pour le film La Comédie, c'est quoi l'amour, un film sur la famille. Et puis je vous parlerai aussi d'un autre film sur la famille, et le titre est éloquent hein, puisque c'est Mon grand frère et moi de Ryota Nakano. Quant à toi Sophia, un film.
Oui, on parlera pas de famille, mais de liens interpersonnels quand même. Je vous parlerai de Cosmos de Germinal Roux.
Et puis toi, Guillaume, est-ce qu'on parle de famille avec tes films?
Ben, pas vraiment. Non, avec moi, on voyage. On va en Italie avec Vivaldi et moi, et puis en Afrique avec La Captive du désert.
Et nous commençons à nous promener dans un village du Yucatan pour vivre la rencontre entre un gardien maya et une écrivaine venue de Mexico qui fait naître un lien inattendu. Nous parlons de Cosmos.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre, moi.
Et si ralentir devenait un geste politique pour regarder autrement, écouter vraiment? Cosmos, le nouveau film de Germinal Roux, nous propose exactement ça. Depuis plus de 20 ans, ce photographe et cinéaste franco-suisse construit en noir et blanc une œuvre tournée vers les marges et les oubliés. Après Left Foot, Right Foot en 2013 et Fortuna, doublement primé à la Berlinale en 2018 hein, avec Bruno Ganz, il signe ici son troisième film, une œuvre contemplative, radicale et pas toujours facile à habiter. Le cinéaste Wim Wenders parle d'un film qui l'a émerveillé comme rarement. Cosmos a aussi été récompensé au FIFDH de Genève en 2025, où il a été salué comme une lettre d'espoir et d'amour à l'humanité. Mais derrière cette beauté sensorielle, une question affleure: jusqu'où peut-on suspendre le temps sans finir par tenir le monde et ses personnages à distance?
Quand tu n'en parles pas, Yano kuchikasho kubinu nachi talo tila kaholi milubo.
Nous sommes dans la péninsule du Yucatan au Mexique. Léon a 62 ans, c'est un paysan, maya, analphabète, gardien des secrets de la nature et des esprits qui vit dans une cabane au cœur de la jungle. Sauf que cette petite maison va être rasée, des promoteurs ont décidé de tracer une route à travers sa propriété. Un de ces coups de force hein, du capital contre les terres indigènes. De son côté, Lena a 68 ans, c'est une femme de lettres, bourgeoise érudite, blanche, ancienne universitaire hein, et critique d'art, récemment arrivée de Mexico parce qu'elle est malade, gravement, et qu'elle est venue ici pour finir ses jours. Ces deux-là n'auraient jamais dû se croiser, et pourtant il y aura d'abord une première conjonction à la pharmacie, puis le chien de Lena, Bruno, va faire le lien entre elle et lui. Et de cette rencontre improbable va naître quelque chose de profond, de silencieux et de très beau, un conte philosophique sur la vieillesse, la finitude et ce lien d'amour essentiel qui traverse même la mort.
Belai, tout est pahal.
Soyons clairs, d'emblée, Cosmos est un film assez exigeant. 2h26 de méditation en noir et blanc, au format 1.33, le fameux 4 tiers, presque carré, intimiste, et un rythme contemplatif qui suppose qu'on accepte de ralentir avec lui. C'est un film dans lequel on entre ou pas du tout, et visuellement, quand on y entre, c'est saisissant. La direction de la photographie est co-signée Inti Briones, un chef opérateur chilien qu'on a vu briller sur Neruda de Pablo Larraín, et Ro lui-même, fidèle à son langage de photographe. La composition des plans porte cette attention au cadre et au contraste, hein, qui est la marque d'un regard formé par des années de photographie documentaire. Le film use abondamment des pillow shots, hein, ces plans contemplatifs popularisés par Ozu, convoquée ici comme chez Vera Cetacool, des feuillages dans le vent, l'eau d'une cénote, la terre, le ciel assombri, autant de poses qui font de la nature non pas un décor, hein, mais une présence imprévisible et structurante.
Quédate aquí tan tranquilo.
Pues van a derrumbar a mi casa.
¿Quiénes?
Los ricos.
À ce travail de l'image s'ajoute un design sonore très immersif, la jungle du Yucatan captée dans toute son épaisseur, indissociable de la cosmovision maya que porte Léon. Cette vision du monde où l'humain ne se pense jamais séparé de la nature, où le visible et l'invisible coexistent, où le temps n'est pas linéaire mais un cycle. Pour ce qui est du casting, Angela Molina, l'inoubliable actrice de cet obscur objet du désir de Buñuel en 77, hein, qui a depuis traversé Almodovar, Bellocchio, Ridley Scott, est bouleversante de dignité dans ce rôle d'une femme qui apprend à lâcher prise. Face à elle, Andrés Katzin n'est pas acteur professionnel, c'est un vrai paysan maya dont la connaissance de la forêt, des étoiles et la cosmovision de sa communauté irrigue chaque plan d'une authenticité qu'aucun jeu n'aurait pu simuler. Le film est d'ailleurs tourné en langue maya et espagnole et c'est un geste politique en soi. La langue maya est presque absente du cinéma contemporain.
Me miras así. ¿Te gusta verme así? Has despertado en mí muchas cosas que yo intentaba olvidar.
Alors oui, la dramaturgie s'effrite par endroits et à force de vouloir suspendre le temps, Ro prend aussi le risque de suspendre le récit, au point que la beauté finit parfois par remplacer ce qui devrait nous relier au personnage. Est-ce que la contemplation devient un refuge esthétique ? Est-ce que le film évite le politique concret ? Les notions d'expulsion, de colonialité, de classe ? Bon, il nous offre en tout cas un espace pour contempler et peut-être méditer sur notre propre finitude, si on est prêt et prête à se laisser ralentir.
En tout cas, je n'ai vu que la bande-annonce, mais les images ont l'air splendides, effectivement.
Ouais.
Cosmos, ce film est en salle depuis le 6 mai. Un couple divorcé se lance dans une démarche pour annuler son mariage religieux, ravivant au passage des sentiments qu'il pensait éteints. C'est quoi l'amour ?
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma.
Cinérama.
Nous en parlerons tout à l'heure.
Prix du jury et prix d'interprétation féminine pour Laure Calamy au Festival de l'Alpe d'Huez. C'est pas mal du tout hein, pour C'est quoi l'amour, comédie de Fabien Gorjard sur la famille recomposée. La famille est une question qui intéresse le réalisateur. Dans Diane à les épaules, il racontait comment elle était transformée par la GPA. Et puis en 2021, dans La vraie famille, un petit garçon adopté à 18 mois repartait vivre avec son père biologique. Ici, nous suivons Marguerite et Fred qui ont eu un enfant il y a plus de 20 ans et sont séparés. Marguerite a refait sa vie et a un autre enfant, Fred, lui, compte justement eh bien, se remarier. Mais sa promise étant très religieuse, elle veut un mariage à l'église. Problème, pour pouvoir repasser devant le prêtre, Fred doit faire annuler son précédent mariage à l'église. Si Fred présente cela comme une simple formalité, cette procédure de nullité du sacrement de mariage revient à considérer que l'union eh bien, des anciens époux n'aurait jamais dû avoir lieu car il y avait un vice caché. C'est aux autorités ecclésiastiques de mener l'enquête pour s'assurer eh bien, que le mariage n'avait effectivement aucune raison d'être. Cette situation va bouleverser beaucoup de choses, surtout chez Marguerite. Les anciens époux en viennent à questionner leurs liens passés mais aussi présents. Ils en viennent à se questionner sur l'amour, sur ce qui unit ou désunit. Se sont-ils d'ailleurs jamais aimés ? Le doute est existentiel. Et symboliquement, eh bien, que devient leur fille qui serait le fruit d'un amour maintenant nié ? Que représente un enfant finalement ? Fabien Gorjard déploie une solide écriture hein, permettant de lier les personnages. Alors il y a les ex-époux, mais aussi les nouveaux compagnons, et puis les enfants dont l'une adolescente vit, eh bien, elle, une histoire d'amour. Le trouble s'empare des deux personnages principaux, tandis que les autres eh bien, s'adaptent à cette situation qui emmène tout le monde de Rouen au Vatican.
Ça me ferait trop plaisir de venir.
Moi aussi, je viens.
Tom, il dit qu'il pourrait venir, ses parents, ils sont chauds.
Moi, je me débrouille super bien en italien et je connais hyper bien la ville, je suis un super guide.
Ah ben.
Ah bah oui, tu viendrais.
Quand on s'est mariés comme ça. Vous étiez beaux tous les deux. Et quand on s'est séparés comme ça.
Le grand intérêt de C'est quoi l'amour, qui aurait pu s'appeler C'est quoi la famille, était d'envisager la famille comme un espace sentimental et émotif à construire, différent pour chaque individu. La comédie naît des dialogues, mais aussi des situations, et est soutenue par un casting impeccable, avec une Laure Calamy forcément alors excessive, et un Vincent McCain lunaire. La fin, qui sonne comme un épilogue et prend la forme d'un discours, est remarquable, permettant à tous les ex-conjoints, belle-mère et beau-père, de s'identifier. Malgré ces quelques excès, cette comédie sonne vraiment juste. Et on a le plaisir d'écouter Fabien Gorjard et le comédien Lies Salem, que j'ai rencontré, alors on dit dans le métier en one-to-one, mais dans le monde de la francophonie, on dit en face-à-face. Donc c'est un vrai plaisir. Et donc Lies Salem joue le compagnon de Marguerite, et le réalisateur, eh bien lui, s'est contenté de faire le film. Nous écoutons.
Moi, c'est Marguerite. Dans ma vie, il y a Sofiane et notre fille Raphaël.
Les petits copains, les devoirs, le sport, tout rentre pas.
C'est pas les petits copains, c'est le petit copain.
On peut parler de tout ça à la maison. Merci. Tu prends ça comme un exercice, c'est des choses qui arrivent.
Fabien Gorjard, vous avez sorti un film qui s'appelle « C'est quoi l'amour ?» Donc, c'est une question très intéressante et c'est même particulièrement osé. Comment vous est venu ce sujet ?
Il est venu d'avoir entendu parler des procès en unité de mariage. En gros, un procès en unité de mariage, c'est au sein de l'Église catholique. Si on veut se marier à l'Église et qu'on s'est déjà marié à l'Église, on n'a pas le droit. La seule manière de le faire, c'est de prouver que le premier mariage n'avait pas de raison d'être. Donc on rentre dans ces démarches-là, qui sont une procédure, un procès de type inquisitoire. Et donc dans le film, en fait, le personnage qui est joué par Vincent McCain vient voir son ex Laure Calamy, qui joue Marguerite, et en lui disant « Écoute, j'ai rencontré quelqu'un, et on sait qu'ils sont séparés depuis très longtemps, ils ont une fille... qui a 22 ans, et dit « J'ai rencontré quelqu'un, pour elle, c'est super important de se marier à l'église, mais comme nous, on s'est marié à l'église, je peux pas, il faudrait qu'on fasse une procédure, tu verras, c'est trois fois rien. » Et en fait, c'est pas du tout trois fois rien qui va se passer, parce que la procédure est bien plus complexe, et c'est surtout, ça va être un endroit un peu... Ça va les mettre dans une espèce de vertige où ils vont devoir regarder ce qu'a été leur histoire, tout en vivant ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Donc Marguerite, elle est mariée avec Sofiane, qui est interprétée par Aliès, qui est avec nous là, et ils ont une fille aussi, qui a 15 ans, qui vit sa première histoire d'amour, qui prend beaucoup de place, comme va prendre beaucoup de place la première histoire d'amour de Marguerite. Et puis il y a Chloé, donc le personnage qui est joué par Mélanie Thierry, qui est donc celle qui veut absolument se marier à l'église. Et puis bien sûr Léa, leur fille de 22 ans. Ils vont tous se retrouver finalement au travers de cette procédure. Ça va les amener loin. Je dis pas vers où, mais ça va les amener loin.
Justement, ce qui est intéressant, c'est quand ça débute. Alors il est question du passé, du présent, du futur. Et dans le présent, l'histoire d'amour la plus présente, c'est celle qui viendrait des hormones, de l'adolescence. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que ce serait pas ça la définition de l'amour. Vous allez en donner un autre aperçu avec Laure Calamy et Vincent McCain.
La définition de l'amour, le film essaye d'élargir la question de plus en plus. Plus on avance dedans, plus on voit qu'elle déborde. Elle déborde sur qui ? L'amour, c'est l'accumulation de tous nos amours, en fait, finalement aussi. C'est ça. La vie, on a plusieurs histoires et il en reste toujours des traces. Et comment on fait avec Raphaël, elle vit sa première histoire d'amour, mais au fond c'est aussi une histoire miroir de celle qu'a été Marguerite et Fred. Il y a une sorte de superposition toujours dans le film entre le passé et le présent, et avec du passé qui s'incarne dans le présent, quoi.
Il y a aussi Léa.
Bon, faut que j'y aille là.
La fille que j'ai eue avec mon ex, Fred.
Toi et moi, on s'est mariés à l'église et je peux pas m'y remarier, tout simplement parce qu'on peut pas se marier deux fois à l'église.
Tu vas te marier ?
Ben oui.
Sur cette définition de l'amour, alors il est question de l'amour, effectivement. C'est difficile de parler de la fin, puisque c'est la fin, et donc dévoiler la fin d'un film, enfin voilà, c'est compliqué. Mais le film se déplace, effectivement, vous le dites, cette histoire a des dommages collatéraux, et j'ai l'impression que vous parlez, enfin, c'est sûr même, vous parlez de la famille recomposée. Et ça, je trouve que c'est un thème très important de ce film.
Ah bah oui, bien sûr, c'est au fond, c'est ça que j'avais envie de retracer, montrer que, voilà, tous les possibles de la famille. Moi, je suis un enfant divorcé, je me suis moi-même séparé. Voilà, la famille recomposée, j'en suis un fruit.
Vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait, là, d'être ici comme ça avec nous.
Ça me remue un peu, quoi, tout ça.
Justement, parlons de cette reconversion de la famille, Ilyes Salem. Vous jouez le compagnon de Laure Calamy. Et justement, vous sentez que le fait que votre compagne retourne dans son passé, ça a quelque chose de dangereux, de perturbant.
Bah évidemment, oui. C'est-à-dire qu'il sent assez rapidement, il a l'intuition que ça va être un peu particulier parce qu'elle va se replonger dans une ancienne histoire d'amour et que en s'y replongeant, il y a sans doute une mémoire affective, sensorielle, charnelle qui va remonter et que qu'est-ce que ça va donner. C'est effectivement pas ultra rassurant pour lui. Mmh. Hein, mais je crois qu'il, moi je trouve qu'il y va de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire qu'il tant que faire se peut, il accepte, il accompagne ça avec un peu d'humour. Il y a deux, trois petits moments, moi, que j'aime bien dans le film. Il fait des petits tests pour voir si elle a toujours gardé son humour, des choses comme ça. Donc, moi, ce qui me plaisait bien, c'était que dans la partition du film, en fait, et donc dans cette multitude de réponses possibles à la question que pose le titre, c'est quoi l'amour ? Sofiane en est une, c'est-à-dire qu'il, c'est un peu comme sur une partition de musique symphonique, si vous voulez, c'est un pupitre. Et ce pupitre-là, c'est de jouer, je t'accompagne, j'accepte que tu redonnes du temps à une ancienne histoire, voire même que tu... Et je reste dans le coin. Et comme on s'est toujours dit aussi, moi, c'est une intuition que j'ai eu aussi dès le départ, c'est que si c'est la femme avec qui il vit, la mère de son enfant, sa maîtresse, c'est aussi sans doute sa meilleure amie, et qu'il la connaît parfaitement. Et qui connaît sa fantaisie et qui sait de quoi elle est capable pour un bon moment de joie. Et donc je pense qu'il se dit je vais quand même venir à Rome, histoire que, parce que Rome ça peut devenir une espèce de flipper dans lequel elle serait une balle et voilà. Et donc j'y suis allé un peu comme ça, voilà, jusqu'au moment où effectivement là, il est un peu saoulé, quoi, et il le fait savoir.
Fabien Gorjard, pour C'est quoi l'amour ? J'ai l'impression qu'il y a tout de suite un changement d'échelle qui est propice à la comédie, évidemment, parce qu'au début, on est à Rouen, ça devrait concerner que deux personnes, et puis après, on se retrouve à Rome, et ça concerne tous ceux qui sont liés à ces deux personnes. Et bon, là, on spoilerait si on parlait d'un personnage important qui intervient, mais vous faites en plus intervenir. Enfin voilà, il y a une espèce de surenchère.
C'était vraiment l'idée. Ça m'amusait beaucoup de dire que j'allais faire un film qui commence dans un centre commercial et qui finit au Vatican. Voilà. Donc, et c'est ça le chemin, la question et le chemin et les personnages qu'on rencontre n'arrêtent pas. C'est un cercle qui n'arrête pas de s'élargir de plus en plus. Et voilà. Et où du coup, on donne. C'est le film triche d'une certaine manière en faisant croire que ça soit une comédie de remariage, ça va concerner que deux personnes, et puis finalement plus ils s'interrogent sur leur histoire, plus on voit que leur histoire elle ne concerne pas qu'eux, elle concerne aussi tous les gens qui sont autour d'eux. Ça c'était vraiment ce qui m'a guidé dans l'écriture.
Bon, et du coup il y a aussi Chloé,
la compagne de Fred.
Je dois signer quoi ?
C'est un peu plus compliqué qu'une signature, mais enfin c'est pas la mer à boire. Hein.
Est-ce avec lui que vous avez perdu votre virginité ?
Il a pas arrêté de sous-entendre que j'étais une énorme pute parce que toi t'as dit que j'avais couché avec tout le monde, à tout va.
Non.
Qu'est-ce que tu fous avec une ultra cato, toi ?
Je l'améliore, toi.
C'est au Vatican que le dossier sera traité.
Plutôt sympa comme châtiment. Un petit voyage à Rome.
C'était Fabien Gorjard et le comédien Ilyes Salem pour C'est quoi l'amour en salle depuis le 9 mai. Vivaldi va changer la vie d'une orpheline. Nous parlons de Vivaldi et moi.
Pardonnez-moi, mais la situation est très délicate.
Cinérama.
Ce film est une catastrophe.
Alors, il n'y a pas que l'horrible Michael, le biopic géographique terrifiant de paresse et de consensualité qui a le monopole de faire revenir une icône mondiale d'entre les morts pour mieux hanter nos écrans. Non, face au roi de la pop, l'Italie contre-attaque en comptant faire les beaux jours de notre printemps cinématographique, puisqu'elle dégaine Primavera, soit le printemps, et donc chez nous un peu un plus simple et clair Vivaldi et moi. Alors les mélomanes auront immédiatement reconnu l'allusion à l'une des compositions les plus célèbres du musicien vénitien, qui est la première partie de l'ensemble justement nommé Les Saisons. Et les mélomanes seront contents de voir qu'en lieu et place d'un tâcheron comme Antoine Fuqua, ici c'est un spécialiste de la musique qui prend les rênes de l'entreprise, puisque Vivaldi et moi est l'œuvre de Damiano Micheletto, un metteur en scène d'opéra s'étant déjà frotté entre autres à Rossini, au Conte d'Hoffmann, à Carmen ou encore au Barbier de Séville.
Ogni domenica sogniamo dietro una grata perché nessuno deve mai vederci in volto.
Sono tutte così timide?
Educate all'obbedienza, istruite.
Vi Vivaldi et moi nous amène au début du XVIIIe siècle, entre les murs de l'Hospedale della Pietà à Venise, qui recueille et forme de jeunes orphelines à la musique. Alors contrairement à une école musicale ou à une formation plus classique, hein, pourrons-nous dire, ces jeunes femmes et filles sont dissimulées au public, souvent masquées ou disposées derrière une grille. Cela n'empêche pas les missions souvent importantes hein, qui sont déléguées à cet orchestre féminin, puisqu'il se produit pour les riches mécènes de l'Institut et attire le beau monde de la lagune. Ce système permet de subvenir aux besoins de l'institution, mais est paradoxal car, loin de créer des vocations, hein, la rigidité de l'établissement fait que ses propres interprètes ne peuvent pas vraiment croire que la musique est autre chose qu'un divertissement. Cécilia, la vingtaine, se distingue par la pratique virtuose de son instrument et y excelle en tant que violoniste. Alors tout irait hein, pour le pire dans cette étrange vie compartimentée et religieusement tournée vers la musique si l'arrivée d'un nouveau maître de musique, hein, Don Antonio Vivaldi, n'était pas venu bouleverser sa vie et celle de l'hospédale. Au-delà de la musique, Vivaldi va permettre à Cecilia de s'épanouir sous son mentorat et bien évidemment sa musique, de combattre sa situation et les choses qui l'enfermaient dans sa situation de femme et sa perception de son art. Car derrière l'orpheline qui pourrait rester anonyme comme son poste l'exige, il décèle un potentiel qui pourrait servir ses créations, faisant ainsi l'amalgame heureux du talent conjugué à la pureté de sa pratique.
Abbiamo un primo violino.
Io?
Come ti chiami tu?
Cecilia.
Ma tu hai qualcosa che le altre non hanno.
Alors on le comprend assez vite, hein, si le titre français met, hein, par souci de bien marketer son film, le célébrissime Vivaldi en avant, Primavera c'est avant tout l'histoire de Cecilia qui racontait. Hein. Un peu comme l'excellent Orson Welles et moi de Richard Linklater, hein, dont le titre et l'angle de traitement du sujet a dû inspirer hein, les producteurs de Primavera. Vivaldi reconnaît en Cecilia un talent singulier et lui confie le rôle de premier violon, hein, mais il reste à faire sauter les chaînes de l'orphelinat dont elle est prisonnière et qui exploite ses dons, mais aussi un mariage arrangé qui menace de l'éloigner de son art et de son désir profond de trouver sa propre voix. Alors sans surprise, le film fait basculer la peinture d'une discipline de fer des concerts à la naissance d'une sensualité, intimité, individualité et volonté totale de liberté. Derrière la recherche de la musicienne parfaite, il y a une quête d'identité, hein, où l'art se révèle comme un espace de résistance et d'émancipation. C'est bien évidemment là que réside toute la force du film, car s'il ne brille pas particulièrement par sa mise en scène, il est bien évidemment difficile de résister d'une part à sa musique et bien évidemment à ce schéma absolument intemporel qui ne peut être qu'inspirant.
Più impeto, mi sto addormentando.
Non voglio più sposare, ma sposandovi avrei dovuto rinunciare alla musica.
Io non posso far nulla,
ma voi invece sì.
La leçon est belle, si belle qu'on pourrait presque oublier son message fondamental. Derrière une musique pleinement effective qui touche l'âme tout autant qu'elle élève celle qui la compose, il y a un être complet, libre et entier. Alors peu importe alors si on a droit aux habituelles approximations historiques et autres arrangements romanesques avec la réalité, le genre nous ayant déjà délivré en pareille circonstance l'un des plus grands films de tous les temps à mes yeux avec le Amadeus de Miloš Forman. Alors bon, Vivaldi et moi en est certes loin, mais est parfaitement reconnaissant. Et ce, même au-delà du cercle déjà acquis des mélomanes.
Eh bien, ce film est en salle depuis le 6 mai. Dans l'immensité du désert, une femme retenue, captive, lutte pour survivre et préserver sa liberté. Nous parlons de la seule œuvre de fiction de Raymond Depardon, La captive du désert.
Ben oui, c'est le film et le film est bien.
This is Cinerama.
Oui, c'est bien mon avis.
Bon, je sais que j'ai joué, j'ai perdu.
Qu'est-ce que vous avez joué ?
Ben, ma vie, hein.
Au-delà du photographe mondialement connu, il y a aussi le cinéaste qu'une rétrospective va vous faire découvrir ou redécouvrir en ce moment en salle. Raymond Depardon est affilié au documentaire car c'est tout naturellement qu'il a pu faire valoir son art de la photographie, de la captation artistique du moment à ce format bienvenu, mais il s'est aussi aventuré vers des terres plus difficiles. En l'occurrence, il s'agit ici de l'Afrique et du Tchad, et en s'inspirant de l'histoire de Françoise Clostre à travers un film de fiction. Mais chassé le naturel, il revient au galop. Surtout quand vous avez l'habitude d'immortaliser ce fameux naturel. Alors on va voir que si La captive du désert est bien un film de fiction, le seul, comme tu l'as mentionné Vincent, de Depardon, il emprunte énormément à la vie et à tout ce qui a pu nourrir son œuvre auparavant.
Qu'est-ce qui se passait dans ma tête? Je sais pas. J'avais envie d'être photographe ou chasseur d'images.
« La captive du désert, c'est donc Françoise Clostre, une ethnologue et archéologue française qui va connaître une triste heure de célébrité au mi-temps des années 70, en cela qu'elle va être prise en otage lors de l'un de ses voyages. Captive pendant plus de 1000 jours entre les mains des rebelles tchadiens, son destin croisera celui de Raymond Depardon, puisqu'en tant que reporter et photographe, il va filmer et même interviewer Françoise. Cette interview va émouvoir l'opinion publique et va forcer le gouvernement à intervenir de manière plus conséquente, alors que la passation de pouvoir autour de Valéry Giscard d'Estaing freinait une manifestation forcément politique dans ce conflit. Alors ironiquement, Depardon filmera lui aussi Giscard dans le depuis devenu célébrissime une partie de campagne à la même époque.
Tu me donnes des billets.
Et une autre chose aussi, c'est que j'avais envie de faire du cinéma.
Alors soyons honnêtes, La captive du désert n'est pas pour tout le monde. Malgré son résumé qui pourrait laisser penser à un thriller, voire à un potentiel film d'action, vu qu'il est question d'une prise d'otage, de fuite en pleine nature et de tentatives multiples d'évasion, il n'en est rien. On est très loin du Sorcerer ou du Traqué de William Friedkin, voire même d'Aventure en Birmanie de Raoul Walsh. On se rapproche plus de Walkabout de Nicolas Roeg. La captive du désert est l'occasion de se plonger dans ce que la nature dépeinte dans le film procure, un instant d'éternité qui remet l'homme à sa place. Dans le désert, il n'y a rien. Pas de distraction, pas d'énergie, pas de temps. Il n'y a rien que le soleil et les variations des dunes qui entraînent invariablement une perte de repère et le sentiment de contempler un bout d'éternité, alors que le spectacle de la nature nous rappelle que nous sommes, nous aussi justement, l'un de ces petits grains de sable qui composent l'univers. C'est donc un voyage sensoriel que nous invite Depardon et pas du tout à une réflexion sur la légitimité ou non de Françoise à être dans ce pays, à la légitimité ou non de ses ravisseurs de la kidnapper, juste l'homme ou plutôt la femme et la nature, la vraie, intense, aussi paisible qu'implacable.
Pour quelqu'un qui a envie de mourir, vous êtes bien sourire.
Dans mon parti politique, moi, je vais supprimer les psychiatres.
Dans notre métier d'agriculteur, il ne faut pas aimer son métier, il faut être passionné.
Et s'il faut bien avouer que le rythme risque d'endormir plus d'un spectateur, il serait pour autant extrêmement dommage de ne pas aller voir ce film sur grand écran, tant il a été pensé pour ce format. La précision de l'œil de Depardon et sa science des cadrages permettent un saisissant effet de 3 dimensions sans aucun procédé technique. Et son long métrage de fiction est une succession de plans tous plus beaux les uns que les autres, quand ils ne sont pas tout simplement à couper le souffle. On ne peut qu'admirer la persévérance de l'artiste et de son équipe technique lorsque on pense à ce que certaines prises de vue ont dû nécessiter comme logistique dingue pour attraper le bon plan large au bon moment de la journée, car ici, le spectaculaire est naturel.
Ce film, comme d'autres de Raymond Depardon, est visible dans certains cinémas. Après la mort de son frère, une jeune femme doit gérer son héritage chaotique et découvre peu à peu un lien qu'elle n'avait jamais su voir. Nous parlons de Mon grand frère et moi.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Précisez.
Avec la famille Asada, le réalisateur japonais Ryota Nakano avait rencontré un beau succès dépassant les 250 000 entrées, ce qui pour un film japonais est quand même remarquable. C'est encore les liens familiaux qu'il scrute avec Mon grand frère et moi. On suit Riko, une femme écrivaine, mère de 2 enfants qui doit retourner dans sa ville natale pour le décès de son frère, une tâche qui lui déplaît alors non pas tant parce qu'il est question de la mort mais parce qu'il s'agit de son frère avec qui elle a pris ses distances. Des flashbacks nous font comprendre pourquoi il en est ainsi quand il était jeune. Quels que soient ses comportements, le frère attirait l'attention des parents qui délaissaient alors la jeune fille. En vieillissant, cet homme plutôt excentrique a eu beaucoup de mal à se fixer, à trouver un travail, si bien qu'il a toujours tenté de demander de l'argent à sa sœur qui n'avait plus que ce lien-là avec lui, un soutien financier. En venant s'occuper des préparatifs des funérailles, Riko retombe sur son ex-belle-sœur et sa nièce, qui lui donne une image de son frère bien différente de celle qu'elle avait en tête. Et comme si ce n'était pas assez, le propriétaire est lui aussi loin d'accabler le défunt. Cette exploration mémorielle épouse différents points de vue. Alors il n'est pas question de la vérité sur quelqu'un, mais de l'image qu'il laisse. Elle va permettre à Riko de se réconcilier avec son frère et avec elle-même. Bien qu'il s'agisse de la mort, alors il n'y a absolument rien de pesant dans ce film. On note même un soin particulier accordé à la fantaisie et au burlesque, avec des apparitions fantomatiques. Il y a sans doute quelques maladresses, mais le réalisateur japonais parvient avec beaucoup de délicatesse à dresser le portrait d'une famille, ou en tout cas des souvenirs qu'on peut avoir de quelqu'un. Mon grand frère et moi est en salle depuis le 6 mai.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle?
Au revoir.
Pardon?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir.
De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier. Le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine, Guillaume, tu auras deux films.
Oui, un documentaire événement sur Iron Maiden et un film d'animation, Ciao.
Et puis, comme Cannes, le festival de Cannes va s'ouvrir, eh bien, nous parlerons du film d'ouverture de Salvadori, La Vénus électrique. À la semaine prochaine.